Bonjour les marcheuses et les marcheurs, bonjour les randonneuses et les randonneurs en ce samedi matin 10h. Bienvenue dans votre nouvelle émission, je marche, donc je suis. Nous voilà embarqués pour une demi-heure de chronique à la fois écolo, patrimoniale, environnementale, bien sûr culturelle, mais également sportive. Sur ces terres, des pierres qui roulent, qui vous donnent sans doute envie de courir, voire de voler, nous allons nous limiter à marcher, mais d'un bon pas, pour justement essayer de trouver satisfaction. Vous en avez maintenant l'habitude, nous débutons notre chronique par une citation d'un auteur célèbre qui aimait la marche et qui en louait les qualités. Aujourd'hui, c'est Jack Landsman. Dans un titre symbolique qui aurait pu être celui de cette émission, Marche et rêve, il débutait en reprenant Nietzsche en préambule. Marcher, c'est retrouver son instinct primitif, sa place et sa vraie position, son équilibre mental et physique. Mais il ajoutait, c'est aller avec soi, sans autre recours que ses jambes et sa tête, sans autre moteur que celui du cœur, celui du moral. Voilà l'écho d'un écrivain baroudeur qui accomplit une incroyable et éprouvante expédition à travers les déserts bibliques du Negev et du Sinaï. Scénario, parolier de Dutron notamment, réalisateur de cinéma, journaliste et écrivain, il rédigea un grand nombre de romans de 1954 à 2006, année de sa disparition, dont « Fou de la marche » en 1985 et « Marche et rêve » en 1988. Toute sa vie, il fut un grand marcheur devant l'Éternel. Des Andes à l'Himalaya, de la forêt de Saint-Germain au Tibesti, des Cévennes au Kilimandjaro, de Bornéo à La Réunion, il a couvert en marcheur conscient des milliers de kilomètres. Nous voilà embarqués pour notre ambulo ergo sum, notre discours sur la méthode pour mieux marcher et randonner. Aujourd'hui, un seul conseil, relatif à la rencontre, improbable ou inopinée, avec un patou. Que ce soit en estive ou de retour de la montagne dans nos coteaux et nos sous-bergues, il arrive parfois de rencontrer des troupeaux de moutons, avec ou sans berger, avec ou non la protection d'un patou. Le patou est un chien de berger particulier, qui n'aide pas le berger dans ses manœuvres, mais qui est là pour protéger le troupeau et son territoire. Il n'est pas le seul à jouer ce rôle. D'autres gros chiens sont également utilisés comme le berger de Marraine ou des Abruzzes, le Kangal ou encore le berger d'Anatolie. Mais aujourd'hui, s'il existe plusieurs races de chiens de protection, il n'existe qu'un seul patou, un chien corpulent à la livrée claire blanchâtre. Le patou vit de manière permanente depuis sa naissance avec les moutons et donc ses liens le conditionnent pour réagir instinctivement à toute intrusion contre le troupeau, qu'il s'agisse d'humains ou de prédateurs de la faune. Mais ces chiens impressionnants, par leur taille et leurs aboiements, font d'abord de l'alerte, puis de la dissuasion. En cas de rencontre, mais ceci est valable pour tous les chiens, le principal est de ne pas entrer sur son territoire. Arrêtez-vous. S'il s'approche, le patou en fait a une mauvaise vue. Il vient s'enquérir de l'intrus. Il faut garder son calme et rester passif, ne pas le regarder dans les yeux, enlever éventuellement son couvre-chef et ses lunettes de soleil, détacher son sac à dos et le mettre en prévention entre lui et vous. Le tout en évitant les gestes brusques. Il faut en même temps lui parler, le calmer. Si l'espace le permet, il faut s'éloigner du troupeau et le contourner largement. Sinon, prendre son mal en patience, essayer d'apaiser le chien et avancer très lentement sans forcer, surtout si le chien présente des signes d'énervement avec le poil qui se hérisse. Bien sûr, ne pas le menacer avec vos bâtons, garder les pointes vers le bas, ne pas prendre de photos, vous pouvez tenter une adjonction ferme du type « retourne au troupeau ». Si cela ne fonctionne pas, patientez. Sinon, rebroussez chemin, la prudence doit rester de mise.
Je marche, donc je suis sur Radio FM+.
Dans cette chronique, nous allons introduire une nouvelle rubrique sur l'état des parcours. Si vous ne procédez pas à des reconnaissances systématiques, vous pouvez avoir la désagréable surprise de ne pouvoir suivre la randonnée projetée en raison d'impossibilités liées à des éboulements, des interdictions municipales ou autres. Donc vous, usagers des sentiers et des milieux naturels, devenez acteurs en signalant toute anomalie rencontrée lors de vos randonnées. De nombreux services de ce type existent déjà. Nous rajoutons donc notre participation à ceci pour une meilleure qualité de préservation des milieux de randonnée en décloisonnant l'information pour qu'elle puisse atteindre le plus grand nombre. Donc, nous communiquerons nos propres informations, mais également celles que vous nous transmettrez. Nous évoquerons chaque semaine l'état de certains parcours, éventuellement leur remise en service. Aujourd'hui, je signale que dans l'Hérault, le sentier de Jontanelle à Cabriac, celui qui suit la Jonte, est coupé suite à un arrêté municipal. Idem pour le GR du Larzac, qui suit la Vis entre Mandières et Navacelles. Cette rubrique est la vôtre. Faites-la vivre de vos observations pour vous et pour les autres.
Vous écoutez votre émission « Je marche, donc je suis » présentée par Robert Almalric.
Comme annoncé, notre réflexion du jour va porter sur le GPS, mis au point en premier par les Américains et dont l'acronyme signifie « Global Positioning System ». Le principe de base de son fonctionnement fut décrit dès 1842 par Christian Doppler. Mais il a fallu attendre le premier vol orbital de Sputnik russe pour que les Américains utilisent l'effet Doppler pour mesurer et suivre ce satellite. C'est de l'effet inversé de cette pratique qu'est né quelques années plus tard le GPS. Dans ce cas, c'est un satellite qui envoie directement des signaux qui sont captés et analysé sur Terre pour permettre une géolocalisation au sol après une série de calculs. Ce système s'est rapidement révélé d'une importance capitale pour de nombreux usages militaires. C'est ce qui a dopé le projet, qui nécessitait tout de même de nombreux satellites pour disposer d'une couverture complète. Finalement, ce ne fut qu'en 1994 que ce système est devenu vraiment opérationnel quand les militaires, après le lancement d'un nombre suffisant de satellites, accompagnés à terre d'une puissance de calcul capable de générer des résultats en instantané. Rappelez-vous maintenant, son utilisation généralisée ne date en fait que du début du siècle, quand Bill Clinton en a élargi son utilisation civile pour tous les usagers. Bien sûr, avec un système d'une précision pas tout à fait militaire, mais très acceptable. Ce démarrage a d'abord profité aux voitures, puis à des récepteurs spécialisés personnels, avant de connaître l'essor de ce que l'on vit aujourd'hui avec l'avènement du smartphone. Que l'on soit à pied, à cheval, en voiture, l'on peut connaître aujourd'hui, sans carte ni boussole, sa position et sa situation dans l'espace avec un récepteur spécialisé ou son simple téléphone portable. Toutefois, pour un usage plus pointu, il vaut mieux comprendre le fonctionnement du système. Contrairement à notre téléphone, les informations ne viennent donc pas de relais hertziens, mais directement de signaux satellitaires. C'est l'avantage du GPS, où que l'on se trouve, à part bien sûr sous l'eau ou sous la terre, on reste en liaison, on est toujours connecté. Contrairement au réseau téléphonique, encore émaillé de zones blanches où l'on ne peut rien capter. Actuellement, tous les grands pays ont lancé des flottilles de satellites pour la mise en service de leur propre système. On compte bien sûr les USA, la Chine avec le système Beidou, la Russie avec le système GLONASS. Et l'Europe, me direz-vous ? Eh bien, elle vient de combler son retard avec son système Galileo équipé de 32 satellites pleinement opérationnels depuis cette année. C'est le dernier né des GPS et sans doute le plus performant, avec une précision inférieure au mètre. Grâce à ces signaux venus du ciel, aujourd'hui avec un récepteur portable de petite taille, vous disposez de votre position 3D, longitude, latitude, altitude, mais aussi de votre vitesse et de l'heure. Chaque satellite émet en permanence un signal et leur nombre aujourd'hui permet de fournir une position quelle que soit la situation de l'utilisateur à la surface de la Terre. Mais il faut savoir que le meilleur rendement du GPS dépend de très nombreux facteurs, dont la qualité du récepteur, le mode de calcul et l'environnement. Pour ce dernier, la situation idéale a lieu lorsque vous vous trouvez dans une zone plate. Dans ce cas, votre récepteur va recevoir en direct les signaux de 5 à 10 satellites, ce qui va permettre à son algorithme de vous donner une précision de situation de l'ordre du mètre. C'est l'idéal, mais ce n'est que rarement le cas, surtout sur les terrains accidentés ou dans les grandes villes. Il faut comprendre qu'à part le signal du satellite, qui peut être un instant juste au-dessus de votre tête, les autres envoient aussi des signaux, mais qui vont heurter des surfaces réflectrices, telles des bâtiments, des parois rocheuses ou tout autre obstacle. Dans ces cas-là, les éléments fournis ne correspondent pas à la distance réelle du signal. Votre récepteur va alors analyser ces signaux et son algorithme, par recoupement, opérera des corrections. C'est aussi le cas selon la densité du plafond nuageux et de l'état de l'ionosphère ou de la troposphère. Mais dans ce cas, vous constaterez que la précision du rendu en est affectée. Vous relèverez un déphasage et une imprécision de la géolocalisation fournie. Ce type de situation atteindra son paroxysme si vous cheminez dans une vallée très escarpée et très boisée. La réception des signaux sera alors très difficile, surtout s'il y a beaucoup d'humidité, car l'eau accumulée dans les arbres va elle aussi absorber une partie des ondes. Votre récepteur aura alors du mal à vous fournir une position précise ainsi que votre direction. En ayant connaissance de ces biais, ne soyez pas désemparé ni perdu quand votre GPS va perdre de sa précision et de sa réactivité. Dans ces cas, il suffit parfois de patienter ou de se déplacer pour recevoir de meilleurs signaux. Mais ce ne sont pas là les seules limites du GPS qui est devenu un outil précieux, voire indispensable, mais qui a l'inconvénient de développer trop souvent un excès de confiance et également de faire perdre le sens de l'orientation. En plus, malheureusement, la machine peut tomber en panne, vous laissant fort mari si vous n'avez pas de plan B. D'où la nécessité pour les encadrants de randonnée de conserver une carte et une boussole pour pallier, en dernier recours, aux limites du système. J'arrête là toutes ces considérations techniques. La semaine prochaine, je passerai en revue les différentes applications avec l'ensemble des services fournis. Un peu de musique avant d'entreprendre la deuxième partie de notre chronique avec un invité mystère.
Shame, oh shame, babe.
Robert Amalric, Je marche donc je suis. Nous entamons après ce Back to Black d'Amy Winehouse la deuxième partie de notre émission. Un invité mystère est absent. Ce n'est pas un canular, mais l'invité du jour est bizarrement un excellent communicant, mais qui déteste parler ou parader en photo. Difficile, me direz-vous, pour la radio, mais compte tenu de ce qu'il représente, je souhaitais sa présence dans l'émission. On va donc procéder à un petit jeu. Sans déflorer le sujet, je vais reprendre des propos qu'il a tenus. Ceux qui le connaissent le reconnaîtront rapidement, les autres le découvriront. Donc, j'ouvre les guillemets. Bonjour, je suis webmaster, amateur et bénévole. J'ai créé un site dont l'objectif est de faire partager à tous et gratuitement mes connaissances en matière de randonnée dans l'arrière-pays languedocien. Notre région est, à mon sens, une des plus favorables de France pour la pratique de la randonnée. 5 bonnes raisons à cela. Tout d'abord, le climat. On y marche toute l'année, presque toujours au sec, souvent au soleil. On peut choisir ses secteurs en fonction de la saison, par exemple les Garrigues en hiver, les Gouelles ou le Mont Lozère en été, les monts du Haut-Languedoc, les vallées Cévenoles ou l'Écosse en mi-saison. Autre bonne raison, sur ce petit territoire, la géologie et les différentes influences climatiques ont créé des paysages d'une incroyable diversité. Ici se côtoient tous les types de roches, calcaire, schiste, granit, gneiss, grès, basalte, ainsi que tous les autres dérivés et intermédiaires. Ici s'affrontent les masses d'air méditerranéennes et océaniques avec une influence montagnarde en altitude. Au final, cela nous donne cette variété de paysages, de couvertures végétales, mais aussi de patrimoine bâti. Troisième bonne raison, la position en amphithéâtre de la région offre une grande palette de niveaux des difficultés. Cela va de la petite rando sur le littoral ou en garrigue à la rando de 1000 mètres de dénivelé en terrain montagneux. Il y en a donc pour tous les goûts. Quatrième raison, l'abondance des sentiers. Une belle randonnée se déroule essentiellement sur des sentiers et évite les pistes forestières et les routes. Cela fait plus de 30 ans que je parcours le pays et je continue à découvrir de nouveaux sentiers, comme si la source était intarissable. La raison est certainement que l'industrialisation et l'exode rural ont touché tardivement la région, ce qui fait que les sentiers de liaison sont souvent restés utilisés. Ensuite, les chasseurs ont maintenu la ressource et aujourd'hui, ce sont surtout les randonneurs. Enfin, la région n'est pas surfréquentée. À l'exception de quelques spots bien identifiés, Saint-Guilhem, Ravin-des-Arcs, Pic-Saint-Loup, etc., on randonne souvent sans rencontrer personne, ce qui permet de profiter au mieux de l'environnement et les quelques rencontres qu'on peut faire se font toujours dans un bon esprit, y compris avec les chasseurs, les vététistes ou avec les autochtones. Un petit bémol peut-être quand on se rapproche trop du littoral. La question que vous vous posez sans doute, pourquoi avoir réalisé ce site? D'abord, parce que ça m'amuse. Et puis, le monde ne tournerait pas rond sans l'associatif, l'humanitaire ou le bénévolat. Alors, c'est ma façon à moi d'apporter une minuscule pierre à l'édifice. Je ne suis pas informaticien, ce n'est pas mon métier. Ce site n'a donc pas la prétention de concurrencer les grands noms du secteur ou des sites, très bien faits d'ailleurs, des offices de tourisme de notre région. Je suis parfaitement conscient que mon public est local et se restreint à une poignée de fidèles. J'espère néanmoins que ma nouvelle version, avec ses améliorations, satisfera les utilisateurs. Voilà, je ferme les guillemets. Alors, l'avez-vous reconnu? C'est tout simplement un vrai amoureux de la nature qui a réalisé un excellent site et qui est à la fois administrateur et acteur de ce site. Ce site, c'est Randonnée Cévenoles. Randonnée Cévenoles au singulier. Le premier site avait été mis en ligne le 19 janvier 2002, puis il y a eu une version 2 mise en ligne le 16 décembre 2006. La version actuelle date du 24 septembre 2022. Randonnée Cévenoles est une plateforme très bien faite, alimentée par des passionnés qui font écho de leurs péripéties par des descriptions imagées et des remarques et observations de vrais amoureux de la nature. Il faut que vous fassiez une visite de ce site qui ne vous laissera pas indifférent. Respectant le souhait de notre invité du jour, je ne vous révélerai pas son identité, bien sûr, mais par contre, je vais vous révéler un parcours qu'il apprécie.
Vous êtes bien sur Radio FM Plus et vous écoutez Je marche, donc je suis. I'm not trying to have another conversation. Probably not gonna wanna
play me on your station. Pouring out. À ma demande, notre inconnu m'a confié qu'il aimerait mettre en valeur la montagne héraultaise, qui est beaucoup moins connue que les Cévennes, les gorges du Tarn ou de la Gente, et qui est tout aussi spectaculaire, mais bien plus sauvage. Il a donc choisi l'arête de Sainte-Trope. C'est une randonnée difficile, mais elle est incomparable pour son ambiance montagne. Vous pourrez découvrir ce parcours sur carnet de randonnée directement sur le site. Pour l'évoquer, je vais en reprendre les caractéristiques les plus marquantes. Cette rando est donc située au nord-ouest du département de l'Hérault, au-dessus de Saint-Gervais-sur-Mare, pas très loin du département de l'Aveyron, dans le massif de l'Espinouse. Discret, ce massif se cache mystérieusement dans l'ombre du Caroux, l'un des plus hauts sommets de la partie méridionale du massif central, qui culmine à 1124 mètres. C'est encore une zone très escarpée, pas très fréquentée, où la rencontre principalement des mouflons et quelques randonneurs. La randonnée est annoncée difficile. Carte IGN 2443 OT avec ses 750 mètres de dénivelé positif pour 12,5 km. Elle comporte des passages vertigineux et exposés par endroits. Elle nécessite donc une très bonne condition physique et s'adresse à des randonnées et des randonneurs surtout aguerris et bien équipés. Elle démarre à Andabre sur la route de Castelnay-le-Haut qui plonge et qui longe la rivière Lamarre. Pour accéder au sentier, il faut prendre le petit pont au-dessus de la rivière et aller sur sa gauche pour rejoindre le chemin de la Combe, puis le sentier Kerné de Keysenhall. Après une montée dans les châtaigniers, le sentier sort dans les genêts et la bruyère. Après une série d'escaliers, la première découverte apparaît, la chapelle Notre-Dame de Sainte-Trope. Celle-ci se dresse à 624 mètres dans un site admirable. Ce monument, vieil édifice pré-roman, serait daté du 15e siècle, sans plus de précision. C'était sans doute un ermitage. Il a été restauré dans les années 80. La chapelle ne se visite pas, mais perdure le rite d'une procession tous les 30 avril. Ensuite, fini les escaliers. On attaque les choses sérieuses avec la portion la plus dure du parcours qui nécessite parfois de céder des mains avant de fouler l'arête de Sainte-Trope. C'est dur, mais c'est très esthétique. On s'élève régulièrement sur la crête dans cette face nord de l'Espinouse au relief caractéristique et spectaculaire. En se retournant, l'impression d'espace est grande. L'ambiance est vraiment montagne et très sauvage. Une fois sur le plateau de l'Espinouse, on apprécie les vues, d'abord vers le nord, les rocs d'Orque, le Marcou, les monts d'Orbe, les Gouales au nord-est, puis la Serranne, le Liosson, le Vissou, puis vers le sud, le Carou. Ensuite, une descente plus pentue dans les cailloux et les rochers vers le col de l'Ourtigas, au milieu des hêtres et des châtaigniers, vous découvrirez le très agréable vallon de Caïssenol avec ses hameaux en cours de restauration depuis 2005 par l'association du même nom. Le site regroupe deux hameaux, Caïssenol-le-Haut et Caïssenol-le-Bas. L'ensemble appartient à l'État, c'est géré par l'ONF et la réhabilitation de Caïssenol-le-Haut à quand même 691 mètres a été confié à cette association qui s'y emploie avec opiniâtreté et constance. Sur ce site, on découvre un refuge ouvert toute l'année, composé de 3 étages, un véritable gîte où il est possible de dormir, 10 matelas, et même de manger avec une grande salle équipée, avec cheminée et même un ruisseau pour se rafraîchir. Cela peut être utile car les difficultés vont s'accumuler pour atteindre le passage exceptionnel qu'est le portail Rocanduir. Une sorte de mur naturel percé d'une porte, fruit de son érosion et au milieu de laquelle passe le sentier. Après avoir repris votre souffle, il faut observer de près ce rocher qui se dresse comme un étendard sur ce sommet de 581 mètres, défiant depuis des millénaires l'érosion et les vents mauvais. Sa matière, c'est du gneiss, G-N-E-I-2-S, un cousin du granit, une roche métamorphique composée de différents minéraux comme le quartz, le feldspath et le mica. Mais si ces substances sont placées de manière désordonnée dans le granit, dans le gneiss, elles sont alignées, composant une structure foliée. C'est le résultat d'énormes pressions sous d'intenses températures. Ses origines remontent à l'ère primaire, aujourd'hui nommée le paléozoïque, période comprise entre moins 540 et moins 255 millions d'années. En regardant cette roche de près, on est saisi par cette surface très lisse. Cette roche est le témoignage du chaos qui existait ici, avec de nombreux volcans en éruption, il y a près de 350 millions d'années, une Terre, alors en fusion, bien avant la venue des dinosaures. Pour achever en beauté, vous pouvez maintenant gravir la crête du cerf du mort jusqu'au bout, jusqu'au point culminant, pour profiter de la vue sur les falaises d'Orque et le pilier d'Albès, le mont Marcou, les monts d'Orbe et l'Espinouse. Des panoramas plein les yeux, vous pouvez maintenant redescendre par la lande, puis les forêts de hêtres et de châtaigniers, et aller récupérer votre véhicule. Notre chronique hebdomadaire « Je marche, donc je suis » se termine. Vous avez le podcast à disposition sur le site de la radio par l'adresse radiofmplus.org. Vous pouvez, à partir du podcast, laisser vos commentaires, conseils ou propositions pour améliorer cette chronique qui se structure. Vous pouvez également directement nous laisser un mail. radiofmplus34@gmail.com. On se quitte maintenant sur une chanson proposée par notre invité mystère, randonneur d'exception, webmaster à 16 heures, qui a choisi Maria de Jane. Bye bye et à la semaine prochaine, 10 heures.
For you and me, I wish that you could see mercy for you and me.